VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Conakry, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Au Ghana, le candidat de l'opposition à la présidentielle ghanéenne, Nana Akufo-Addo, renforce son avance sur ses concurrents. Selon plusieurs médias locaux, mais la commission électorale, toujours occupée au décompte des voix, n'a publié jusqu'à présent aucun résultat officiel. Le leader du nouveau parti patriotique, le NPP, qui brigue pour la troisième fois la présidence, a prononcé jeudi soir un discours triomphant dans lequel il se disait confiant d'avoir remporté une victoire historique sur son rival, le président John Dramani Mahama, en course pour un second mandat. Ce matin, plusieurs médias locaux confirmaient cette allégation, bien que la commission en charge de dépouiller les votes ait annoncé un délai de 72 heures à partir de mercredi soir avant d'annoncer les résultats définitifs. Deux radios locales ont déjà donné l'opposant gagnant avec respectivement 54,39% et 54,75% des voix. Si l'un des candidats dépasse les 50% des suffrages, il n'y aura pas de second tour. Côté présidence, le chef de l'État, John Dramani Mahama, qui brigue un second mandat, a lancé un appel au calme. M. Mahama a dit à ses partisans qu'il respectera les résultats du scrutin, que ces derniers soient positifs ou non pour son camp. Le Libéria a demandé à l'ONU de proroger la présence de la force onusienne sur son territoire jusqu'à l'élection présidentielle prévue en 2017. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
Lewis Brown, représentant du Libéria à l'ONU, a demandé au nom de son gouvernement une prolongation d'une année de la mission de l'ONU au Libéria. Elle devra aider à la sécurité jusqu'à l'installation d'un gouvernement démocratiquement élu. Les Libériens seront appelés aux urnes en 2017 pour élire le successeur à l'actuelle présidente, Ellen Johnson Sirleaf, qui aura bouclé deux mandats à la tête du pays. Madame Sirleaf est devenue en 2005 la première africaine élue présidente, obtenant la même année le prix Nobel de la paix. Elle a été réélue en 2011. Le Conseil de sécurité doit prendre ce mois-ci une décision sur le maintien ou non de son personnel, qui compte quelques 1800 casques bleus. La MINUL, dont les effectifs ont cumulé à plus de 15 000 soldats, était chargée en 2003 d'assurer la sécurité et la protection de la population après 14 ans de guerre civile meurtrière au Libéria.
Mali, le procès de l'ex-chef de la junte malienne Amadou Ayassanogo et ses 17 co-accusés a été renvoyé au mois de février 2017. Cela pour permettre au laboratoire Mérieux de faire un rapport d'expertise médicale des 21 victimes. Cette demande est l'une des exceptions des avocats de la défense qui en avaient formulé un total d'une dizaine. La seule retenue a été l'établissement de ce rapport d'expertise. Le président de la Cour a donné un délai de 45 jours, d'où le renvoi du procès à la première session de la Cour d'assises de l'année 2017. En RDC, un second dialogue politique est en cours à Kinshasa depuis jeudi sous l'égide de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo. Les protagonistes de la crise dans le pays prennent tous part à ces assises de la dernière chance. Le président Joseph Kabila et le leader de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, n'étaient pas présents à la cérémonie d'ouverture du nouveau forum hier, mais leurs délégués y ont pris part. L'objectif est de trouver un compromis politique sur la gestion de l'après 19 décembre 2016, date qui marque, selon la Constitution, la fin du mandat du président Kabila. Mise en perspective avec Roger Kalala de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Six points de divergence soulevés par les évêques catholiques seront au centre des débats. L'organisation des élections, la gestion de la transition et la compréhension du respect de la Constitution figurent parmi les sujets qui divisent les deux camps. Pour le député Deli Sesanga du Rassemblement des forces acquises au changement, il faut attendre une solution à la crise créée par la majorité présidentielle.
Aujourd'hui, nous nous battons pour la tenue effective des élections présidentielles et législatives dans le meilleur délai et donner à ce pays les institutions légitimes que le peuple mérite.
À la majorité présidentielle, on s'appuie toujours sur l'accord du 18 octobre et on attend des propositions du Rassemblement. Lambert Mende espère un consensus sur les questions qui divisent.
Le dialogue a déjà commencé, il s'est terminé par un consensus. Il y en a qui étaient absents. Nous souhaitons élargir ce consensus dans l'intérêt du pays.
Les travaux ouverts jeudi devraient durer 3 jours, selon Mgr Marcel Outembi, Kinshasa, Roger Kalala de Top Congo pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Kenya, les médecins infirmiers en menace d'étendre aux établissements privés la grève qui paralyse depuis lundi les hôpitaux publics du pays. Environ 5000 professionnels de la santé réclament une augmentation des salaires et les syndicats ont rejeté mercredi l'offre du gouvernement d'une hausse de 50 000 shillings. Entre-temps, au moins 14 patients sont décédés dans les hôpitaux publics en raison du manque de soins. Et écoutez le témoignage d'un médecin qui travaille dans le privé, le docteur Eric Nyandoui.
C'est vraiment la paralysie totale. Tous les hôpitaux sont vides. Les patients ont dû quitter à partir de ce lundi, le jour où ils ont décidé de commencer la grève. On voit que vraiment c'est de la paralysie totale. Rien ne fonctionne. Et nous qui sommes dans le secteur privé, on est débordés par les patients parce qu'ils quittent le secteur public pour le secteur privé. On a vu dernièrement des patients qui étaient dans des transports publics avec des sondes nasogastriques. C'est vraiment très grave ce qui se passe ici au Kenya.
Le docteur Eric Nyandoui à Nyeri au Kenya. En Somalie, les principaux leaders politiques somaliens ont fixé au 28 décembre la date de l'élection présidentielle, un scrutin déjà repoussé 4 fois. La nouvelle date a été annoncée jeudi soir dans un communiqué commun publié par le gouvernement, les présidents des États fédérés et la commission électorale somalienne. Ils ont précisé que les élections législatives en cours depuis octobre devront être achevées le 14 décembre. L'élection des présidents du Sénat et de l'Assemblée est prévue le 22 décembre. Conflit en Syrie, les troupes du régime syrien bombardent violemment à l'artillerie ce vendredi les derniers quartiers aux mains des rebelles à Alep, la grande métropole du nord du pays, malgré l'annonce par l'allié russe d'un arrêt des opérations de combat pour permettre l'évacuation de milliers de civils pris au piège. L'armée de l'air a en revanche suspendu ses frappes depuis jeudi soir sur les quartiers en question. Le président syrien Bachar al-Assad estime que la conquête d'Alep représenterait un tournant dans la guerre civile syrienne. Pour une analyse, Jacques Aristide a joint Philippe Migo, directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste de la Russie.
Et oui, parce que c'est la reprise de la dernière grande agglomération qui restait aux mains de l'opposition à Bachar al-Assad, que la chute d'Alep est symbolique, parce que c'est la reprise d'une place forte des opposants à Bachar al-Assad. Et puis aussi, cette prise de la ville va permettre de libérer des moyens militaires qui vont permettre de poursuivre la reconquête de la Syrie, que ce soit dans la région d'Idlib ou davantage vers l'est, dans la direction de Raqqa. Donc oui, très clairement, c'est une très grande victoire et c'est vraisemblablement un tournant dans la guerre, oui.
La chute d'Alep témoigne-t-elle de l'échec de la communauté internationale, mais d'une montée en puissance de la Russie avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier ?
Alors je pense que la montée en puissance de la Russie, elle est évidente et cela depuis plusieurs années maintenant, donc elle est absolument incontestable, que ce soit dans le dossier syrien ou dans d'autres dossiers. Est-ce que c'est un échec de la communauté internationale ? C'est très clairement un échec occidentale, dans la mesure où les Américains et leurs alliés n'ont pas réussi à forcer la main à la Russie sur le dossier syrien. Pour autant, est-ce un échec de la communauté internationale ? Non, je ne pense pas, parce que la communauté internationale ne se réduit pas aux seuls occidentaux. Très clairement, c'est un échec des occidentaux vis-à-vis de la Russie. Ça, oui, c'est certain. Je pense que le plus probable, c'est que Alep, les restes de la poche d'Alep seront liquidés avant la fin de l'année 2016.
Donald Trump, pendant la campagne électorale, a été très critiqué par ses adversaires ici aux États-Unis. Au sujet de ses supposées relations avec la Russie, avec Vladimir Poutine. Quelle lecture faites-vous de toute cette situation ?
Écoutez, je pense que c'est une défaite majeure pour l'administration Obama, peu de temps avant le départ de Barack Obama de la Maison Blanche. C'est vraisemblablement une leçon pour les Occidentaux qui ne voulaient pas admettre depuis plusieurs années que la Russie était revenue au premier plan sur la scène internationale. Et je pense que Donald Trump va pouvoir repartir sur de nouvelles bases avec la Russie, sur des bases, j'imagine, plus réalistes, en tout cas j'espère plus réalistes, de ce qu'est la puissance russe et de l'intérêt de s'en faire un partenaire, non pas un ennemi, sur la scène internationale.
Philippe Migo de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques était en ligne de Paris. Et pour terminer, Corée du Sud, les députés sud-coréens ont voté ce vendredi la destitution de la présidente Park Geun-hye, la privant de ses vastes pouvoirs exécutifs. Conséquence d'un vaste scandale de corruption qui a suscité un ras-le-bol général et paralyser son gouvernement. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.